BPM, élections régionales 2021.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections régionales auront lieu le 20 et 27 juin prochain. Cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales d'Île-de-France viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous accueillons Thierry Gonneau, qui est sur la liste de Nathalie Arthaud, candidate tête de liste de la lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs aux élections régionales d'Île-de-France. Thierry Gonneau, bonjour.
Bonjour.
Alors Thierry Gonneau, vous êtes ouvrier dans l'automobile à Flins. Nathalie Arthaud est quant à elle enseignante et porte-parole nationale du parti Lutte Ouvrière. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Mais tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi d'être sur cette liste au régional, Thierry Gonneau ?
Bien, ben, comme l'intitulé le dit, pour faire entendre le camp des travailleurs. Parce qu'on estime que le patronat est représenté par les différents partis, que ce soit de droite comme de gauche, qui mènent... une politique qui, une fois au pouvoir, mène une politique quand même qui est semblable. Hein. Rappelons que Macron sort d'un gouvernement de gauche. Voilà. Donc, faire entendre le camp des travailleurs, eh bien, c'est dire que bah, cette partie-là de la population, les travailleurs, c'est-à-dire les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, ont à se faire entendre, surtout dans cette situation.
Alors, depuis un an, vous êtes conseiller municipal d'opposition à Mantes-la-Jolie. Comment se passe votre vie d'élu local ?
Ben écoutez, on découvre. Alors, j'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises. Mais ça se passe dans une ville comme Mantes-la-Jolie. Ça se passe quand même... c'est une ville qui sert quand même de marchepied aux politiciens, hein, qui conseillaient... le président du conseil général est sur la liste, il y a députés, etc. etc. Donc ça se passe, vous recevez 5 jours avant un document de 600 pages, et à vous de l'étudier et puis de prendre des positions. Et quand on travaille, en fait, c'est fait exprès pour que les gens qui travaillent aient le plus de problèmes possible à aller creuser les dossiers.
Ça, c'est votre point de vue ?
Oui, c'est mon point de vue.
Alors, on va passer à un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs. C'est l'usine Renault-Flins. Vous y travaillez ?
Oui.
Vous êtes membre de la CGT ?
Oui.
Alors, où en est le dossier ? On arrête complètement...
On arrête toute fabrication de véhicules sur le site de Flins. Et ça veut dire, là, aujourd'hui...
Quand
les dates, précisément, c'est 23-24, on ne sait pas exactement. Tout ça reste dans le flou. Ça dépendra de la fin de vie des véhicules qui sont fabriqués, c'est-à-dire la Zoé et la Micra. C'est des véhicules qui sont en fabrication depuis plusieurs années déjà. Donc voilà, ça va faire que baisser de toute façon la quantité. Et comme il n'y a pas d'autres véhicules qui arrivent, ben, voilà, c'est l'arrêt. Ils ont annoncé clairement l'arrêt de toute fabrication de véhicules.
Mais alors, les raisons de cet arrêt ?
Les raisons de cet arrêt, c'est que le nouveau directeur général, Domeo, a décidé de réduire la production des véhicules Renault de 30% dans le monde. Et ce qui entraîne, pour ne fabriquer que des véhicules qui coûtent cher, voilà, et qui rapportent beaucoup. Donc derrière, il y a un plan de 15 000 suppressions d'emplois, l'arrêt de fabrication, entre autres, à Flins.
Et d'autres usines
Choisy-le-Roi, et puis des usines dans le monde sont impactées en Russie.
Vous me disiez
voilà,
en Algérie.
En Algérie, en Russie, au Maroc, voilà, tout, il y en a pour tout le monde, hein, c'est un plan général.
Alors aujourd'hui, vous êtes combien à Renault-Flins ?
Nous sommes un peu plus de 4000.
Et dans 2 ans, donc du coup en 2023, 2024, vous serez combien ? Après l'arrêt des véhicules ?
Si on croit les dires de la direction, aux alentours de 1900.
D'accord, la moitié.
Et nous, on ne croit pas, on n'est pas Saint-Thomas, on est comme Saint-Thomas, on veut voir.
Vous croyez ce que vous voyez.
Voilà.
Et alors du coup, ça s'arrête, la production, et qu'est-ce qui va sortir de Renault-Flins ?
Alors déjà, je voudrais dire, ça s'arrête, il y a quand même une bagarre à mener, parce que toute la société en ce moment... Il y a des licenciements chez Renault, c'est pareil, et en fait la production stagne, les moyens de production continuent d'être plus performants. Et donc, à un moment donné, il faut poser le problème du partage du travail entre tous, sans toucher au salaire, évidemment. Donc, partage du travail entre tous, sans diminution de salaire. Parce que dans une société où voilà, des gens décident eux-mêmes de réduire de 30% la production pour faire plus de marge, plus de milliards de bénéfices, ben, c'est pas du tout aux salariés d'en payer les conséquences.
Mais est-ce que Renault est rentable aujourd'hui ?
Renault, ils viennent de faire 25 milliards de bénéfices les 10 dernières années. Et là, ils annoncent du déficit. Mais je tiens à rappeler qu'en même temps qu'ils ont annoncé du déficit, ils ont en caisse 16 milliards d'euros de cash.
De trésorerie ?
De trésorerie, de cash. Donc voilà, tout ça, c'est pareil. Non, aujourd'hui, ça fait partie de notre combat. Il va falloir se battre, pas seulement chez Renault, mais chez Airbus, partout, pour le partage du travail entre tous en diminution de salaire, quitte à faire diminuer fortement les profits.
Alors, on va revenir aux élections régionales. Dans la circulaire de lutte ouvrière pour ces élections régionales, l'accent est mis sur la pandémie. En quoi est-elle le miroir des inégalités selon vous ?
Alors, assez clairement, durant toute cette pandémie, toute cette année, on a vu des activités continuer. Quelles activités ? Les activités de production, les gens qui nettoient, qui font les chantiers, qui s'entassent dans les transports en commun, alors que d'autres peuvent faire du télétravail voilà.
Est-ce que à Renault, il y a eu du télétravail ? Il n'y a pas eu de...
Non, on ne peut pas faire des voitures en télétravail.
Ah, oui, voilà, on
donc,
est bien d'accord.
Voilà, en fait, on s'entasse dans les transports, puis quand on arrive sur les chantiers, dans les usines, comme à Renault-Flin, il y a 4300 travailleurs à touche-touche. Il y a des centaines de cas de coronavirus. Mais on dit, vous avez déjà du gel et un masque. Voilà, ce n'est pas ici que vous l'avez attrapé. Bon, voilà en quoi c'est un reflet. Il y a ceux qui peuvent se protéger. Ensuite, quand on rentre à la maison, c'est plus facile de vivre avec la pandémie quand vous avez une grande maison et un jardin que quand vous êtes entassé dans les tours du Val-Fouré ou dans des appartements exigus avec deux, trois enfants. Donc oui, c'est un reflet des inégalités pour nous.
Voilà. Et qu'est-ce que la région peut-elle limiter ou effacer ces inégalités ? C'est compliqué, hein ?
Alors, sur la pandémie, c'est compliqué. Mais ceci dit, on voit partout, ça a été la même politique. Par exemple, le chômage... la possibilité de faire chômer les travailleurs aux frais de l'État, alors qu'il n'y a pas spécialement de raison. Par exemple, concrètement, l'usine de Poissy, Peugeot-Poissy, ou l'usine de Renault-Flin, a pioché inlassablement dans les caisses de l'État, alors qu'il y a du travail.
Des exemples ?
C'est-à-dire que quand il manque de pièces, par exemple, voilà, qu'elles ne sont pas arrivées, des composants électroniques, etc., ce n'est pas qu'il manque de travail, c'est qu'il manque de pièces. Il y a des parties de l'usine qui sont en chômage. D'habitude, c'est en chômage en technique.
Oui, parce que ça arrive souvent. Enfin...
Là, il n'y a pas besoin. Là, c'est caisse ouverte, c'est open bar dans les caisses des chômeurs. Et ils s'en servent bien.
Alors justement, le programme de lutte ouvrière est un programme de lutte, hein, comme vous le disiez. Tout d'abord, contre le chômage, vous dites, je cite, qui menace les travailleurs et pourrit notre société. Alors comment la région peut-elle endiguer cette menace du chômage ? Parce que alors là, on commence gentiment à parler de crise sociale après la crise sanitaire.
Voilà, la crise sanitaire, déjà, je voulais revenir sur plusieurs... chose, mais j'y reviendrai plus tard.
Allez-y. Non, mais allez-y, puisqu'on est dedans.
Mais par exemple, on a vu avec les hôpitaux, c'est un vrai scandale, la gestion de la pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital a pu traverser la crise parce que les gens qui y travaillent, les infirmières, les médecins, les aides-soignants, sont organisés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont dit, dans plein d'hôpitaux, ils ont dit à l'administration, bon là maintenant, écartez-vous et on va s'occuper des choses nous-mêmes. Voilà, parce que les travailleurs ont aussi cette capacité, pas seulement de faire, mais de pouvoir organiser. Et c'est eux qui se sont organisés pour pouvoir soigner les gens. Et voilà, parce que ce que faisaient les différents gouvernements, c'est supprimer 100 000 lits ces dernières années. Voilà, et c'est dans cette... dans ces conditions-là, avec les 100 000 lits supprimés, que la pandémie est venue frapper. Et évidemment, elle est venue frapper un hôpital qui était déjà malade. Et pour passer la crise, les gens sont organisés pour tout. Je voyais dans les services des hôpitaux, c'était les travailleurs qui avaient tout pris en main, quoi. Donc, et avec rien, même pas de masque, même pas de... Bon, alors, oui, c'est... tout ça, c'est vraiment... Un autre aspect de ça, c'est que maintenant, il y a les vaccins depuis quelques temps.
Vous êtes fait vacciner, vous ?
Oui, j'ai une première injection, je n'ai pas la deuxième encore.
D'accord.
Il y a les vaccins. Et voilà, le système économique, le capitalisme, fait que les vaccins, malgré une pandémie mondiale, malgré 3 millions de morts, on n'a pas le droit de violer le secret des brevets. C'est-à-dire que des tas d'entreprises pharmaceutiques auraient pu fabriquer ce vaccin, mais ils n'ont pas le droit de voler la fabrication du vaccin parce que c'est un vol. Alors, les gens peuvent continuer à mourir alors qu'on a les capacités de... voilà, c'est un exemple de ce qu'est le capitalisme et de pourquoi, franchement, il faut le combattre.
Alors, on va revenir au chômage. Vous dites qu'il menace les travailleurs et pourrit notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le chômage ? Parce que le chômage, depuis que je suis né, j'ai 40 ans, on en parle tout le temps. Enfin, c'est un sujet qui revient tout le temps. Et qui empire, plus ou moins, depuis 40 ans.
Eh bien, nous, on pense que... voilà, je viens de parler de l'industrie pharmaceutique, c'est un exemple. Mais en même temps qu'on a besoin des vaccins, eh bien, il y a des suppressions de postes en ce moment chez Synthé Labo, chez Avantis. Et voilà. Alors oui, il y a un moment, il faudrait exproprier les capitalistes privés pour fabriquer ce dont on a besoin. Et entre autres, là, c'est flagrant. Voilà, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir être soigné correctement. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que peut faire la région là-dessus ? Ce que ni les gouvernements de droite ni de gauche, ni les régions n'ont jamais fait, c'est-à-dire que arrêter cette politique de suppression, par exemple à l'hôpital, de suppression de lits, qui continue, malgré on en a pris plein la figure. L'hôpital a failli se noyer, mais il continue à supprimer les lits inlassablement. Et rien n'arrête.
Alors, le gouvernement dit qu'il augmente les lits en réanimation.
Alors, c'est pas ce qu'on voit dans les hôpitaux de Paris, par exemple. Hein. J'ai des camarades à moi qui sont infirmières ou aides-soignantes. Non, ils restructurent, ils arrêtent d'opérer certaines opérations, ils restructurent un peu, ils augmentent les lits en réanimation, mais avec pas plus de personnel, avec du personnel des autres services, dont, du coup, où on ne peut pas opérer, où on ne peut pas soigner. Donc ça, ce n'est pas une solution, ce n'est pas ça dont on parle.
Bon. Allez, il nous reste une minute. Vous souhaitez également pour la région lutter contre la pauvreté, notamment en augmentant les salaires, les retraites, les allocations. Mais la région Île-de-France, en a-t-elle les moyens ? Déjà, est-ce que c'est à la base, c'est pas ses compétences ? Et après, est-ce qu'elle en a les moyens ?
Alors, la région n'a pas les moyens d'augmenter les salaires. La plupart des gens travaillent dans des entreprises privées. Par contre, la région, comme toutes les régions d'ailleurs, mais la région Île-de-France en particulier, arrose copieusement les entreprises sans contrepartie. Et ça, voilà, c'est un scandale. Par exemple, on parle de Renault qui a décidé, dont le PDG a décidé d'arrêter la production, ce qui va entraîner des milliers de suppressions d'emplois à Flins,
Et sur le territoire du Mantois.
Et sur le territoire du Mantois, en fait, toute la région qui va des Mureaux à Évreux va être impactée. Bon, eh bien, cette entreprise a reçu des dizaines de millions de la région, même ces dernières années. Voilà. Et donc, on n'a pas demandé une contrepartie sur l'emploi. Ils ont pris les millions, ils en sont servis, et maintenant, ils disent on ferme. Bon, bah, écoutez, voilà, ça, la région peut ne pas faire ça, par exemple.
Thierry Guenot, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée à 13h et 19h, lundi à 7h30. Nous recevrons la Sens Bayard, qui représente la liste de Clémentine Autain, la liste LFI pour les régionales d'Île-de-France. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.